C'est à Jérusalem qu'a lieu la rencontre de cet après-midi. Je reçois aujourd'hui le professeur Askenazi, plus connu en France sous le nom de professeur Manitou, en compagnie de Emmanuel Alperin, du professeur Stenel et de André Semama. L'une des objections les plus couramment faites à l'existence de l'État d'Israël, notamment par les pays arabes, est celle-ci. D'autres religions existent, christianisme, islam, bouddhisme. Les croyants qui se reconnaissent d'elles font partie de diverses nations et ne réclament pas de territoires spéciaux. Pourquoi, alors, les juifs revendiquent-ils une terre pour s'y établir, leur terre, comme leur bien historique et religieux, alors que d'une part, le peuple juif est formé de religieux et de non-religieux, et que d'autre part, parmi les uns comme parmi les autres, tous ne souhaitent pas revenir en Israël, mais tous se disent juifs. Voilà, une première question.
Je crois qu'avant de laisser à Manitou le soin d'exposer la signification réelle de la judaïté ou du judaïsme, il est bon de savoir, par exemple, que parmi les gens qui se réclament de leur judaïté, eux ne sont pas pratiquants du tout. Il y a beaucoup de juifs qui vivent à travers le monde, et en France notamment, qui n'ont jamais mis les pieds à la synagogue, mais qui se déclarent juifs. Il y a donc là aussi un mystère qu'il faudrait peut-être élucider. Voyons maintenant l'histoire.
Bien, je crois qu'il faut repartir d'un point d'histoire fondamental. D'abord, il s'agit du peuple d'Israël. Ce peuple d'Israël a eu une histoire très longue, à peu près 4500 ans. Et je pense que, grosso modo, on pourrait la schématiser pour notre sujet en trois grandes étapes. Il y a eu d'abord la période hébraïque, la période du peuple hébreu sur sa terre. Elle a duré à peu près 2000 ans. Et là, il n'y a strictement aucune ambiguïté. Le peuple hébreu se connaît et est connu comme une nation. Comme une nation parmi les autres nations qui a ses caractéristiques propres. Cette nation avait sa religion propre, la loi de Moïse, elle avait sa culture propre, sa langue propre, elle avait aussi son territoire propre. Cette nation a été détruite à la suite d'un certain nombre de péripéties, en fin de compte par l'Empire romain, il y a 2000 ans, a commencé une deuxième grande période, la période à proprement parler juive. Le mot juif, et je pense qu'il y a là une indication importante à rappeler, le mot juif est la corruption du mot judéen. Les judéens ayant été les derniers des hébreux sur leur terre, dans le pays que nous nommons Eretz Israël, le pays d'Israël, et que les Romains ont nommé la Palestine à ce moment-là, a commencé donc cette deuxième grande période des rescapés de la nation hébraïque dispersés, ce qu'on a appelé l'histoire des juifs, l'histoire juive, les juifs étant les héritiers des hébreux, mais dispersés, indexés à d'autres entités nationales. Ça a été la très longue histoire de ces 2000 ans de la diaspora juive. Pour nous, Israéliens, nous avons non seulement le sentiment, mais nous vivons cela, de nous trouver au début d'une troisième période, la période israélienne, où le peuple juif dispersé met fin à sa dispersion et se rassemble en tant que nation et redevient la nation hébraïque. Il y avait donc là, dans la manière dont vous avez posé le problème, disons une ambiguïté historique qu'il faut bien restituer. Le peuple d'Israël n'a pas été la seule société où l'identité nationale et l'identité religieuse coïncidaient à l'échelle collective. Et ce qui implique tout à fait normalement qu'à l'échelle individuelle, il puisse y avoir des membres de la nation hébraïque, du peuple juif, qui ne sont pas insérés en Israël en tant que communauté religieuse. Mais ils font partie de la nation hébraïque et du peuple juif parce que, premièrement, notre peuple est une nation qui a sa propre religion. Par conséquent, cette objection, et lorsqu'elle se veut comme argument politique, que le judaïsme étant une religion, cela n'aurait aucun sens que ce peuple réclame sa propre terre, la terre de ses ancêtres, et premièrement un malentendu au niveau des connaissances, mais je crois que c'est un argument de mauvaise foi.
Ce qui est curieux, c'est que c'est une question qui a déjà été évacuée, si vous voulez, par la communauté internationale, il y a plus de 50 ans. Le droit du peuple juif à sa terre, à sa patrie, a été reconnu par la Société des Nations au début de ce siècle. Et nous revenons constamment au même problème parce que la propagande arabe pose cette question constamment et essaye de présenter le judaïsme comme une religion, essaye de dire qu'il n'y a pas de peuple juif. C'est la base même, la base idéologique du refus du monde arabe, du refus d'Israël par le monde arabe. Il n'y a pas de peuple juif, par conséquent, il ne peut pas y avoir de libération nationale d'un peuple qui n'existe pas. Par conséquent, le sionisme est un mouvement d'usurpation et l'État d'Israël n'a pas le droit d'exister. Donc il faut revenir, n'est-ce pas, à cette idée qui pour nous est évidente, qu'il y a un peuple juif, que ce peuple juif a tous les attributs d'une nation et par conséquent un droit inaliénable et imprescriptible à une terre, à une patrie.
D'ailleurs, si vous me permettez une petite phrase incidente, lorsqu'on interroge les contenus même religieux de la doctrine religieuse juive, on s'aperçoit à quel point, et de façon parfois même paroxysme, ces contenus sont premièrement nationaux. Peut-être que ici nous sommes gênés par des questions de vocabulaire. La connotation du terme de nation dans le langage traditionnel hébraïque de la Bible déjà et le vocabulaire contemporain n'est peut-être pas exactement la même. Mais il n'y a pas de doute que l'hébreu comme tel s'est connu, a été connu sans aucune ambiguïté par toutes les cultures à travers les siècles et les millénaires comme étant la nation hébraïque. Le cas particulier de cette nation qui porte une religion qui a été elle-même la matrice d'autres religions de peuples qui ensuite ont distribué leur réalité sociopolitique dans des catégories différentes, est aussi important à signaler, ce qui me permet de revenir sur un petit point de votre exposé d'introduction. Toutes les nations islamiques réclament, en tant qu'islamiques, les terres qu'elles ont conquises à partir de l'Arabie comme point d'origine.
Puisque nous parlons pour un public français, je voudrais rappeler le débat sur la question « qu'est-ce qu'une nation ?» que Renan avait engagé à la fin du XIXe siècle. Renan et derrière lui tous les intellectuels français face aux intellectuels allemands sur la question de l'Alsace-Lorraine. Je me permets de vous rappeler la fameuse conférence à la Sorbonne en 1883 ou 84, intitulée précisément « Qu'est-ce qu'une nation ?». C'est un document que je conseillerais à tout le monde de jeter un coup d'œil dessus. En essayant de définir une nation, Renan parvient à la conclusion qu'en fait, il n'y a pas d'autre définition que celle qui est fondée sur le concept d'autodétermination. Une nation, c'est une collectivité formés d'hommes qui ont vécu ensemble, qui ont fait, dit Renan, ensemble de grandes choses, qui ont souffert ensemble et qui veulent continuer à vivre ensemble. C'est un plébiscite de tous les jours, c'est une citation, c'est un plébiscite de tous les jours, de vouloir continuer à vivre et à créer ensemble. Il n'y a pas d'autre définition. Quelles que soient les définitions que l'on donne, autre que celle-là, fondée sur un principe d'autodétermination, toute autre définition, on y trouve des lacunes et on peut lui substituer une autre définition, sauf à celle-là. C'est un premier élément. C'est l'élément fondamental du sionisme, c'est-à-dire du nationalisme juif, du réveil national juif de la fin du XIXe siècle, qui est un aspect du mouvement des nationalités en Europe à cette période. C'est un premier élément. Un autre élément qu'il faut rappeler, c'est que ces questions qui se posent aujourd'hui se posent, comme Manuel Halperin l'a montré, parce qu'une certaine forme de propagande arabe fondée sur une non-existence d'un peuple juif, donc d'un nationalisme juif, donc d'un mouvement national juif qui prend des formes politiques comme le sionisme, est nécessaire pour et étayer leur thèse. Mais ces questions se posent parce que, en Europe aujourd'hui, après la disparition de 6 millions de juifs d'Europe orientale, la notion même du juif en tant, ou des juifs en tant que collectivité est totalement faussée. Il y a 40 ans seulement, cette question ne se posait pas en Europe orientale, où vivait une grande communauté juive qui possédait tous les attributs d'une collectivité nationale. On ne le sait pas aujourd'hui, c'est tout simplement le fait de l'ignorance. On ne sait pas que les 3 millions de juifs de Pologne formaient 10% de la population. C'est comme s'il y avait aujourd'hui en France 5 millions de juifs. 5 millions de juifs, ce qui voudrait dire si on reprend la situation polonaise d'il y a 40 ans et on la transfère sous forme d'hypothèse en France, ça veut dire qu'il y a 2,5 millions de juifs dans la région parisienne, que Bordeaux, Marseille, Lyon, Toulouse sont des villes à moitié juives, avec une collectivité juive qui possède ses structures culturelles, c'est-à-dire elle a ses écoles, elle a ses journaux, elle a ses théâtres, elle a ses concours de beauté, le plus beau bébé juif de Pologne. Et c'est une collectivité qui a
ses propres députés, son collège électoral.
Qui a son groupe parlementaire. Une collectivité qui parle le yiddish et qui enseigne l'hébreu dans ses écoles. L'hébreu qui est la langue des lycées juifs de Pologne. Est-ce que quelqu'un aurait-il l'idée, il y a 40 ans seulement, en Pologne, de se poser la question, les juifs, que sont-ils? Que sont-ils? Il y avait tous les attributs d'un peuple, d'une nation, sauf le fait qu'ils étaient dispersés et encore, dans les réalités de l'Europe orientale, des villes entières étaient des villes juives, à 100%, à 80%, à 50%. La plus grande ville industrielle de Pologne, la ville de Lodz, avait 1 million d'habitants, dont 500 000 étaient des juifs, et c'était le prolétariat de Lodz. L'industrie polonaise était fondée sur ce prolétariat juif qui parlait le yiddish, qui enseignait l'hébreu, qui avait ses écoles, qui avait ses journaux, qui avait sa vie culturelle. On pouvait naître et mourir comme juif en Pologne sans jamais rencontrer un représentant de l'État. Parce que les juifs avaient également leur système judiciaire.
Je crois que c'est un peu ce qui se passe aujourd'hui en Union soviétique avec certaines restrictions imposées par le régime communiste où le judaïsme est considéré comme une nationalité puisqu'il y a la mention juif pour les citoyens soviétiques d'origine juive. Il y a écrit citoyenneté, nationalité
bien
juive.
Bien sûr, la question sur le passeport de mon père et de mon grand-père, c'était noté que leur nationalité était la nationalité juive. La question ne se posait même pas. Elle était tellement évidente qu'elle ne se posait même pas. Aujourd'hui, alors que le judaïsme européen était anéanti, elle se pose surtout parce que elle a aujourd'hui un sens politique. Si l'on veut démolir la légitimité de l'État juif, de l'État d'Israël, on pose la question pourquoi les bouddhistes et pourquoi les musulmans, ils ont quelques dizaines d'États. Non, il n'y a pas de problème d'État musulman. C'est une autre question. Pourquoi tous les juifs ne viennent-ils pas s'établir en Israël? C'est une toute autre question dont on peut débattre. Mais ce n'est pas cela la question. Et cela n'a rien à voir avec la religion. Je regrette de le dire face à Manitou, mais on se connaît depuis de longues années. Il sait que je suis un mécréant.
Pas tellement, puisque tu es là.
Pour moi, le judaïsme n'a pas le même sens que pour lui, mais le consensus est tel que nous sommes juifs, chacun à sa manière, sans que l'élément religieux, pour moi, il joue un rôle quelconque, alors qu'il joue un rôle très important pour Manitou.
Une question que on se pose souvent en France et ailleurs, évidemment. Israël reconnaît-il ou non des droits aux Palestiniens et quels sont-ils exactement ces droits?
Là aussi, je crois que le débat appellerait, la question appellerait un examen qui remonterait un petit peu aux origines du conflit israélo-arabe. C'est-à-dire que la Palestine elle-même, qui renaît de 2000 ans de disparition de la carte, il faut s'en souvenir, a refait surface au lendemain de la Première Guerre mondiale à la suite d'un accord entre les Français et les Anglais qui ont décidé de redonner naissance à un corps physique qui s'appellerait la Palestine. C'est à la suite du démembrement de l'Empire ottoman qu'Anglais et Français ont décidé de donner à un certain territoire le nom de Palestine. Jusque-là, pendant 2000 ans, depuis la destruction du Temple, il n'y a plus eu de Palestine. Ça n'a plus existé physiquement, plutôt juridiquement et politiquement. C'est à ce moment-là que la Palestine est née de nouveau. Tous les gens qui se trouvaient dans ce territoire se sont appelés des Palestiniens. Or, qui étaient les Palestiniens de l'époque? C'était ce que l'on appelle aujourd'hui les Transjordaniens, les Cisjordaniens. C'était des Arabes, des musulmans, des chrétiens, des juifs, des grecs, des tcherkesses, des gens venus un peu partout dans le monde. Au fur et à mesure, avec l'évolution de la situation au Proche-Orient, et au fur et à mesure des besoins politiques des grandes puissances de l'époque, qui étaient à l'époque l'Angleterre et la France, il y a eu des démembrements. Les Anglais ont décidé, par exemple, de démembrer la Palestine, la couper en deux. Ils ont créé la Transjordanie. Du coup, les gens qui vivaient dans ce territoire ne sont plus appelés des Palestiniens, sont appelés des Transjordaniens. Restait un autre morceau qui s'appelait encore la Palestine, où il y avait de nouveau la même mosaïque de population. Les Nations Unies décident de partager ce territoire en deux, en faire un État pour les Juifs, un État pour les Arabes. Les Arabes n'ont pas voulu de leur État, les Juifs ont voulu le leur. Ils l'ont fait, ils se sont appelés Israéliens et ils ont appelé leur morceau de territoire Israël. Les autres, l'État arabe qui devait naître, a été envahi par la Transjordanie avec la bénédiction de l'Angleterre. Et la Transjordanie a annexé ce territoire qui est devenu la Jordanie en 1952, je crois. Et du coup, cette population-là a changé d'identité, non pas du fait d'Israël ou des Juifs ou d'une puissance étrangère, extérieure, je veux dire, mais du fait d'une décision de la Transjordanie, protégée de la Grande-Bretagne. Ces gens-là ont changé d'identité, sont devenus des Jordaniens. Et le territoire sur lequel ils vivaient ne s'est plus appelé Palestine, il s'est appelé Jordanie. C'est de cette manière que la Palestine a de nouveau cessé d'exister, a replongé dans la pénombre, et deux nations sont nées sur son territoire, à sa place. L'une s'appelle Israël, l'autre s'appelle la Jordanie. Mais à l'origine, si l'on veut, les deux, Israéliens et Jordaniens, ce sont les fameux Palestiniens que l'on recherche en ce moment. Alors, demander quels sont les droits qu'Israël reconnaît aux Palestiniens, je crois que la réponse est facile à trouver. D'abord, il faut faire une définition du Palestinien, puisque Palestiniens aussi bien lors de leur création, lorsqu'on leur a donné naissance à la fin de la Première Guerre mondiale, c'était aussi bien les Israéliens que les Jordaniens d'aujourd'hui. Les deux ont changé d'identité. Il faudrait peut-être leur redonner à tous les deux la même identité. Palestinien, c'est une question qui peut être discutée. Mais quant à songer si Israël admet ou ignore les droits des Palestiniens, je crois qu'il y a des Palestiniens qui existent dans un État qui, en 1952, ont décidé de s'appeler des Jordaniens. Si ça leur plaît à eux de changer d'identité, de renverser le régime hachémite, de mettre à la place du roi Hussein M. Arafat ou M. Abbas, enfin la personne de leur choix, jamais les Israéliens n'ont estimé devoir intervenir dans le régime qui existe en Jordanie. Si la Jordanie devait s'appeler demain Palestine, je crois qu'il n'y a aucune objection de la part d'Israël. Là où il y a objection, là où il y a refus, c'est que lorsque, du côté arabe, on estime que c'est la question de l'existence d'Israël qui est contestée, qui est remise en cause. Et c'est là qu'il y a le refus israélien, en fait.
Pour reprendre les grandes lignes de ce que André Semama vient de dire, on ne peut pas définir les Palestiniens autrement que par une définition géographique. Il n'y a pas de critère des Palestiniens qui soit autre qu'une population vivant dans un certain territoire. Vous ne pouvez pas parler de religion palestinienne, de culture palestinienne, de langue palestinienne. Vous avez une population qui vit dans un certain territoire. Quel est ce territoire? Comme André vient de le dire, c'est la Palestine du mandat britannique, la Palestine de 1917, de la conquête britannique de cette région, après la Première Guerre mondiale. C'est-à-dire le territoire qui recouvre aujourd'hui l'État d'Israël, les territoires qu'Israël a occupés en 1967, et le royaume hachémite de Jordanie. Voilà notre définition, la définition objective de la Palestine, c'est aussi celle des Palestiniens, c'est aussi celle de l'OLP. Lorsque l'OLP parle de Palestine, il parle de ce territoire-là. Et par conséquent, il considère que la population arabe de la Palestine, c'est la population arabe qui vit en Jordanie, qui vit en Cisjordanie, qui vit à Gaza, qui vit en Israël aussi. Il y a donc deux peuples dans cette région, un peuple juif, un peuple arabe. Il y a donc place aux yeux d'Israël pour deux États dans cette région, pas pour trois. Ces deux États existent. Leurs limites géographiques peuvent évidemment être précisées dans le cadre d'une négociation entre ces deux États. Mais les Palestiniens sont parmi nous, ils vivent parmi nous. Il y a un mensonge, il y a un mythe. Lorsqu'on parle des Palestiniens, on dit que les Palestiniens ont été dispersés. Les Palestiniens ne vivent pas sur le sol de leur patrie. Il est vrai qu'il y a un problème de réfugiés. Il est vrai qu'il y a eu un déplacement de population. Mais 85% de la population palestinienne, 85%, vit en Palestine. 85% des Arabes palestiniens vivent dans ce qu'ils considèrent eux-mêmes comme le sol de la patrie. Peut-être pas aujourd'hui dans la même ville que celle dans laquelle ils ont vécu il y a 30 ans, mais toujours sur le sol palestinien. Les réfugiés qui se trouvent en dehors de ce sol, de ce terroir palestinien, sont une infime minorité. Et c'est ceux qui vivent dans les camps de réfugiés du Liban et de Syrie. Et ceux qui vivent dans la diaspora palestinienne, qui est finalement extrêmement limitée, qui se limite au Koweït, à l'Arabie Saoudite, et à quelques dizaines de milliers d'Arabes palestiniens qui ont émigré aux États-Unis. Mais 85% des Arabes palestiniens vivent aujourd'hui en Palestine. Il y a donc là deux peuples sur un même sol, sur un même terroir. Et le problème n'est pas, comme la propagande arabe le présente, et comme souvent en France on l'imagine, le refus d'Israël de reconnaître l'existence d'un peuple arabe palestinien. Le problème, l'essence du problème au Proche-Orient, et c'est ce problème-là existe depuis qu'Israël existe, depuis qu'Israël a été créé, c'est le refus essentiel, le refus fondamental du monde arabe d'admettre la légitimité d'un État d'Israël, d'admettre l'existence d'un peuple juif qui a les attributs d'une nation et qui a par conséquent le droit d'avoir une patrie.
Mon point de vue un tout petit peu est différent dans ce sens que le critère que j'adopte pour juger de cette question est exactement le même que dont j'avais parlé tout à l'heure, c'est-à-dire la question de savoir non pas comment définit-on les autres, mais comment les autres se définissent-ils eux-mêmes. De même que la notion du peuple juif ne peut être fondée que sur la définition qu'en donnent les juifs, et le sionisme est l'expression de cette volonté d'autodétermination, le même critère j'adopte pour parler des Palestiniens. Dans la mesure où cette population dont mes collègues ont parlé, donc, qu'on ne peut réellement saisir que dans un cadre géographique, en des termes géographiques, se définit en termes d'une nation ou d'un peuple spécifique, pour moi, ce qui compte, c'est leur vision d'eux-mêmes et la définition qu'ils donnent d'eux-mêmes. De même, je veux dire par là que les Arabes qui vivent sur le territoire palestinien, sur le territoire du mandat britannique, et se considèrent comme palestiniens, se définissent comme palestiniens et exigent et veulent donner une expression politique à cette spécificité, pour moi, j'adopte leur point de vue. J'adopte le point de vue de toute collectivité humaine qui se définit d'une façon ou d'une autre. D'ailleurs, le principe d'un peuple palestinien, pour moi, ne se pose pas, je l'accepte. Tout le reste, ce sont des problèmes politiques. Tout le reste, ce sont des questions politiques. Alors, à partir de là, on pose la question, quand les Palestiniens et leurs représentants, la question de savoir qui représente aujourd'hui les Palestiniens, quand on se balade un peu en Cisjordanie, on se rend compte que c'est beaucoup plus compliqué que ce qu'on pense sur la rive gauche. Mais la question de savoir si les Palestiniens et quand les Palestiniens reconnaîtront-ils la légitimité d'un État juif. C'est une reconnaissance réciproque des uns par les autres qui est aujourd'hui nécessaire. C'est un premier élément. Une reconnaissance de principe des uns par les autres. Et le reste sont des problèmes politiques. Le reste sont des problèmes politiques. Le reste, c'est une question de savoir, par exemple, est-ce que l'État d'Israël peut-il accepter aujourd'hui, du jour au lendemain, la création d'un État qui s'appellerait palestinien ou n'importe quoi, sans aucune importance, et qui serait fondamentalement hostile, et qui créerait une menace physique très très grave parce que dans la région de Tel Aviv, c'est-à-dire au cœur du pays, là où se trouve la moitié de la population israélienne, le centre industriel et culturel du pays, la frontière ne passerait qu'à 15 ou 17 kilomètres de la mer, c'est-à-dire que le pays pourrait être coupé en deux. Et la grande masse, les grands centres industriels, les grands centres de population pourraient être touchés à coups de roquettes avec lesquelles on se balade aujourd'hui sur le dos. Et on n'a pas besoin ni d'avions, ni de gros missiles. Et par exemple, l'aéroport de Lod, le seul aéroport, le grand aéroport international, pourrait être paralysé par une roquette qu'on tirerait une fois sur 24 heures, une fois par 24 heures à partir de la frontière israélo-palestinienne qui passe, je crois, à 8 km, à 7 km de l'eau.
Je crois que là, Zeev, tu rentres dans le détail parce que de toute façon, la revendication des Palestiniens n'est pas de créer un État à côté de l'État d'Israël. Et c'est, je crois, le fond du débat.
Dans le meilleur des cas, je dis dans la mesure...
Il n'en est pas question, le meilleur des cas pour qui ?
D'accord. Dans la mesure où interviendrait une reconnaissance des uns par les autres. Nous n'en sommes pas encore là. Il faut en fait revenir à la question fondamentale qui est celle de savoir non seulement si les Israéliens reconnaissent les Palestiniens, mais si les Palestiniens reconnaissent les Israéliens. Moi, je crois que c'est une question qui n'est pas plus mauvaise qu'une autre à poser pour le public français.
Précisément, je crois que le public français doit être éveillé à cette question, c'est qu'il y a une asymétrie dans la position des deux peuples qui vivent sur le même territoire. Israël et les Israéliens, et puis cela vient de toute leur tradition, de leur conception, et de leur, ils en ont donné le témoignage à travers l'histoire récente d'Israël, mais à travers toute l'histoire du peuple juif, les Israéliens, quoi qu'en dise une propagande malveillante, ne sont pas des colonialistes ou des colonisateurs, et ils ne voient aucun inconvénient à ce qu'une population qui se trouvait sur le territoire de la Palestine, du mandat britannique, ou ce que nous nommons Eret Israël, tant la Jordanie que la Cisjordanie et l'État d'Israël actuel, vivent dans ce qu'ils considèrent leur patrie. D'ailleurs, nous sommes avec une espèce de sentiments affectifs assez difficiles à définir en français, nous sommes très touchés de la part de ces hommes qui aiment notre pays, et d'un certain point de vue, nous nous sentons bien plus proches d'eux que de certains de nos co-religionnaires qui préfèrent d'autres paysages. Et bien que nous fassions partie du même ensemble religieux et national. Mais il y a une asymétrie, parce que je pense que c'est là l'impasse dans laquelle les Palestiniens qui ne se veulent pas être jordaniens se sont enfermés eux-mêmes. Et nous pouvons discuter de la question des frontières administratives et même politiques, du découpage, de l'autonomie des deux peuples qui vivent sur le même territoire. Ceci est le point de vue israélien. Mais le point de vue palestinien est que si l'on admet que le peuple juif a des droits sur une parcelle quelconque de la Palestine, ça signifierait qu'on admet le principe qu'il y ait un droit de lien entre le peuple juif et la Palestine, et ça met en question leur propre identité, ce qui n'est pas le cas pour nous.
Je ne pense pas que cela mette en question leur propre identité.
Politique. Car,
non, pourquoi ? Deux peuples peuvent parfaitement prétendre avoir des droits inaliénables sur le même terroir et arriver à la conclusion que puisqu'ils ont tous les deux des droits égaux, ils peuvent se partager ce territoire. Mais la manière dont le problème israélo-arabe est présenté en France, dans le monde occidental, souvent d'ailleurs de la faute des Israéliens eux-mêmes, il est présenté sous un jour existentiel. C'est-à-dire, on présente le problème de l'existence de l'État d'Israël. Comment faire pour assurer la survie d'Israël, les frontières d'Israël alors qu'en réalité, le conflit n'est pas existentiel. Le conflit israélo-arabe est un conflit qui porte sur l'essence même, comme Manitou vient de le dire. C'est-à-dire sur le fait que le monde arabe admette, pour la première fois, le monde arabe ne l'a pas admis. Vous n'avez pas aujourd'hui, dans le monde arabe, un seul chef d'État, du moins dans les pays proches d'Israël, dans la région proche d'Israël, qui est admis publiquement que le peuple juif avait le droit à une patrie sur la terre d'Israël. Personne ne l'a encore proféré, personne ne l'a encore dit. Le maximum que nous ayons obtenu après 30 ans d'existence et 30 ans de lutte ici, c'est que le président Sadat nous dise « oui, Israël est un fait ». Israël est un fait, tout en laissant entendre que c'était un fait qu'il ne voulait évidemment pas voir se maintenir au Proche-Orient. Et qu'il ferait tout ce qui est possible, par des voies politiques ou des voies militaires si nécessaire, pour que ce fait cesse d'exister. Nous sommes arrivés à une reconnaissance que nous existons, mais pas que nous avons le droit d'exister. C'est là le problème, c'est là le problème majeur. Personne en Israël, je crois que tu enfonces des portes ouvertes, Zeev, je ne crois pas qu'aujourd'hui en Israël, dans les milieux intellectuels en tout cas, dans les milieux politiques, nous nions, quelqu'un nie l'existence d'un peuple palestinien. Je crois que tout le monde admet le critère subjectif, c'est-à-dire que, bon, si des gens se définissent comme une nation, ils sont une nation, même si cela ne fait pas notre jeu, ne fait pas notre affaire. Donc il y a bien sûr des Palestiniens, mais le problème n'est pas là. Le problème est que le monde arabe admette finalement la légitimité de l'existence d'Israël. Tant que cela n'est pas admis, tant que cela n'est pas admis, nous sommes obligés, nous sommes tenus d'affirmer ce droit. Pas simplement de veiller à notre existence physique, pas simplement de nous défendre, pas simplement d'augmenter notre puissance militaire, d'affirmer ce droit, et de l'affirmer non seulement par la parole, mais aussi par les actes. Et c'est pourquoi le nouveau gouvernement israélien s'attache tellement à déclarer et à faire dans le domaine de l'implantation juive dans ce que l'on appelle en France les territoires occupés, que ce gouvernement